Au fil des années, Eric Bibb s'est imposé comme conteur, penseur et brillant orateur. Avec One Mississippi, il enrichit encore cette palette d'un élan bienfaiteur. Il affirme que le blues ancestral apporte réconfort et confiance face aux turbulences du monde, comme l'a montré sa récente prestation au New Morning à Paris. Eric Bibb accompagne Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires, tout à l'heure à 13h31.
RFI.
Bonjour, c'est Maureen Nemo, musicienne. En 2023, j'ai eu la chance de remporter le prix RFI Instrumental, le concours international d'illustration sonore. Une expérience incroyable qui a donné un nouveau souffle à mes créations. Cette année, le prix fête ses 10 ans. Vous êtes musicien, monteur, réalisateur. Candidatez avant le 13 mars sur RFI Instrumental en cliquant sur Prix.
Soutenu par le programme Africa Creative Sounds de l'Institut français, en partenariat avec Lina, Adobe et Aprime Publishing.
Vous écoutez RFI, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine, avec vous Paul Lonsin-Spinelli à la une, l'épilogue d'un conflit de voisinage entre la Sierra Leone et la Guinée.
Et Conakry a libéré hier 16 militaires et policiers Sierra Leonais accusés d'être rentrés illégalement sur le territoire guinéen en début de semaine. Le Premier ministre Bahouri a reçu hier une délégation diplomatique de la Sierra Leone pour clore ce différend. En Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI convoqué devant le tribunal hier, notamment pour trouble à l'ordre public. Le parquet a requis 3 ans de prison avec sursis contre Kali Siapo qui dément les accusations. Et puis notre dossier de ce journal, il sera consacré à la gastronomie africaine qui séduit les visiteurs du Salon de l'agriculture à Paris. Mais avant de développer ces titres, cette actualité forte sur la scène internationale, Israël annonce avoir mené 3 frappes préventives en Iran. Information du ministère de la Défense israélien ce matin. 3 frappes menées dans le centre-ville de Téhéran, selon notre correspondant sur place, Siavosh Ghazi, que l'on retrouvera en direct dans notre prochain journal à 7h, temps universel.
C'est un incident qui s'est soldé par une solution amiable entre la Guinée et la Sierra Leone.
Et la Guinée a fini par libérer hier les 16 militaires et policiers Sierra Leonais qu'elle avait arrêtés. Ils étaient accusés de s'être introduits en début de semaine sur le territoire guinéen. Le Premier ministre guinéen Bahouri a reçu hier une délégation du pays voisin conduite par le ministre des Affaires étrangères Timothy Kaba afin de clore cet incident en Guinée.
C'est un soulagement pour la Sierra Leone. Au sortir de son entretien avec le Premier ministre guinéen Bahouri, le ministre Sierra Leonais des Affaires étrangères Timothy Kaba a pu poser et prendre des photos avec les militaires et policiers libérés. La diplomatie a donc été privilégiée et les deux parties s'en félicitent. En début de semaine, les deux pays s'étaient mutuellement accusés d'incursions sur leurs territoires respectifs. Selon l'armée guinéenne, les militaires de la Sierra Leone avaient franchi la frontière dans la région de Farana pour y hisser le drapeau de leur pays. Une version rejetée par Freetown qui affirme que ces hommes étaient bien au territoire sierra-léonais et qu'ils y construisaient un poste frontière. L'incident est donc clos, mais les discussions vont se poursuivre puisque le gouvernement guinéen annonce la mise en place d'une commission conjointe entre les deux pays. Elle sera chargée d'examiner les questions frontalières et de prévenir tout nouvel incident. Car ce n'est pas le premier du genre. En avril dernier, Freetown avait dénoncé une incursion guinéenne dans le village frontalier de Yenga dans le nord-est et la CDAO avait dépêché une mission en septembre. Tanguy Bihan, Conakry, RFI.
Un important responsable de l'opposition ivoirienne devant la justice hier, le secrétaire exécutif du PDCI a comparu devant le tribunal de première instance d'Abidjan pour trouble à l'ordre public et jet de discrédit sur une décision de justice. Le ministère public a requis 3 ans de prison avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende contre Kali Siapo car selon le parquet, celui-ci a remis en cause l'invalidation de l'élection d'un député de son parti décidé par le Conseil constitutionnel, Benoît Almeras.
Au centre du débat, il y a ces mots de Kali Siapo partagés sur les réseaux.
On ne peut pas dire que le fils de Ali Ali a triché dans le plan d'Ali Ali.
Nous sommes le 10 janvier dernier, le secrétaire exécutif du PDCI est face à quelques dizaines de militants de tout maudit. Kali Siapo est venu soutenir le député sortant Hervé Ali Ali. La veille, le Conseil constitutionnel a annulé l'élection dans cette circonscription du centre de la Côte d'Ivoire.
Les gens là, ils disent qu'il faut Bagnier a volé et ils disent que Ali Ali a volé. Est-ce que vous êtes d'accord?
Non!
Pour le procureur, Kali Siapo a ainsi jeté le discrédit sur la décision des sages. Il requiert 36 mois d'emprisonnement avec sursis. Interprétation contestée dès la sortie du tribunal par l'avocat de l'opposant, Luc Kakouadje.
Il dit, mais on ne peut pas dire que nous ici, nous sommes des voleurs. Quand il dit ces gens-là, on dit que nous avons triché. Allons sur le terrain leur montrer que c'est faux. Voilà, c'est ça son message.
Maître Adjé dénonce un réquisitoire sans fondement.
Je n'ai pas entendu le réquisitoire. J'ai entendu une demande de condamnation. Quelle que soit la peine avec ceci, je dis que ce serait injustifié.
Le tribunal doit rendre sa décision le 27 mars au prochain. Benoît Almeras Abidjan, RFI.
Depuis l'année dernière, c'est le sixième ministre de l'ancien président sénégalais Macky Sall qui est convoqué par la haute cour de justice. Maître Moussa Bocar Thiam est soupçonné notamment de détournement de deniers publics. Les députés sénégalais ont voté la résolution de mise en accusation hier. L'avocat dénonce une cabale politique initiée par le gouvernement.
Faut-il croire le bon bilan économique présenté par le président du Ghana ?
La question se pose en tout cas auprès de certains économistes après le discours de John Dramani Mahama sur l'état de la nation prononcé hier. Alors qu'en 2022, le Ghana a fait défaut sur sa dette avant d'être secouru par le Fonds monétaire international, le chef de l'État, lui, a mis en avant la baisse de la dette et le retour de la crédibilité financière, Christina Okello.
Pour appuyer ce message, le président ghanéen avance des chiffres qu'il juge spectaculaires.
La dette publique a reculé de 82,1 milliards de cédis ghanéens, faisant passer notre ratio dette-PIB de 61,8 à 45,3%. Il s'agit de l'une des baisses de dette les plus marquées de l'histoire du Ghana.
John Mahama affirme aussi avoir remboursé par anticipation une obligation internationale de plus de 700 millions de dollars et souligne le relèvement de la note du pays par les agences de notation. Conclusion du président, la crédibilité du Ghana est restaurée. Mais pour l'économiste Bright Simons, il faut relativiser.
Ce n'est pas que le Ghana est en train de se redresser. Le Ghana s'est surtout stabilisé et a créé les conditions qui pourraient lui permettre de repartir. De toute évidence, l'inflation est retombée à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis très longtemps, moins de 4%. Les taux d'emprunt de l'État sont descendus sous les 7%. Ce sont des chiffres extraordinaires. Le défi, maintenant, c'est de penser aussi au niveau structurel. Car même si le ratio dette-PIB a baissé et que le pays est en bonne voie pour atteindre les objectifs du FMI, les recettes de l'État rapportées au PIB restent stagnantes. Et dans ces conditions, la capacité du gouvernement à financer ses programmes les plus ambitieux pourrait être menacée.
Un redressement qui se joue encore pour l'heure sous programme du FMI.
Christina Okello.
La caravane itinérante de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a repris du service au Bénin.
Oui, la première audience foraine de l'année sur les affaires de mœurs impliquant des mineurs s'est en effet achevée cette semaine à Parakou, dans le nord du pays. La chambre de jugement de la Criette avait lancé le principe de ces audiences foraines en 2023 et cette fois pendant 3 jours en début de semaine. 10 dossiers ont été examinés, Jean-Luc Aplogan, tous portés sur des affaires d'atteinte sexuelle, viol et harcèlement commis sur des mineurs.
Les victimes avaient entre 4 et 12 ans. Leurs histoires se ressemblent dans l'horreur, mais diffèrent dans les détails. Un conducteur de taxi-moto a écopé de 10 ans de prison pour abus sexuels répétés sur la fille de sa compagne, née d'une précédente union. Devant les juges, il invoque un envoûtement pour se disculper, une défense que personne ne retiendra. Même sentence pour un repris de justice de 30 ans qui avait attiré une fillette de 4 ans dans une chambre. Ce sont des voisins, témoins de la scène, qui viendront la délivrer. L'examen médical confirmera des lésions. Ces condamnations s'inscrivent dans une politique volontariste de la Criette contre les violences sexuelles sur mineurs, menée en partenariat avec l'Institut national des femmes et l'Association des femmes avocates du Bénin. Selon Mario Metonou, procureur spécial de la Criette, les audiences foraines ont par ailleurs mis fin au renvoi à répétition causé par les absences de victimes et les pressions familiales. Il ajoute, aujourd'hui, tout soupçon d'agression sexuelle détecté sur mineurs dans un centre de protection sociale aboutit toujours devant la justice. Fin de citation. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Niger, au moins 25 miliciens civils ont été tués alors qu'ils surveillaient leur village dans le nord de la région de Tillaberi, proche de la frontière du Mali. Ces miliciens du groupe d'autodéfense de Lanzourou seraient tombés dans une embuscade tendue jeudi par des hommes de l'État islamique. Ces événements, ils interviennent un mois après l'attaque ayant visé l'aéroport international de la capitale Niamey. Comment prendre en charge les candidats à l'exil expulsés des pays d'accueil ou qui rebroussent chemin? Avec l'aide financière de l'Union européenne et le soutien technique de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, le Niger s'est doté ce jeudi d'une plateforme nationale pour une prise en charge durable des migrants de retour, Frédéric Gara.
En Afrique subsaharienne, le Niger est l'une des voies importantes de la migration. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, ce sont plus de 4 millions de migrants qui ont été recensés en 2025 sur une dizaine d'axes conduisant vers le nord de l'Afrique et à terme l'Europe. Tous n'atteignent pas leur but, loin s'en faut, et l'urgence pour le Niger est de pouvoir accueillir et réintégrer ceux qui renoncent et rebroussent chemin. Toujours selon l'OIM, au 31 janvier de cette année, le pays accueillait plus de 430 000 réfugiés et demandeurs d'asile. D'où l'importance de se doter d'outils permettant d'héberger et de réintégrer ces populations désemparées. Une plateforme coordonnée avec les autorités de Niamey, l'Union européenne et l'OIM va donc se charger de l'accueil, l'orientation, la réintégration et le suivi des migrants nigériens de retour. En 2025, ce nombre de migrants assistés au Niger a augmenté de plus de 47%, atteignant 20 000 candidats à l'immigration clandestine ayant fait machine arrière.
Frédéric Gara.
La Côte d'Ivoire démarre sa campagne intermédiaire de commercialisation du cacao avec un mois d'avance.
Oui, ça sera finalement le 1er mars. Une annonce importante pour ce secteur phare de l'agriculture ivoirienne. Le cacao, c'est d'ailleurs l'un des nombreux produits ivoiriens que l'on retrouve au Salon international de l'agriculture qui se termine ce dimanche à Paris et où la Côte d'Ivoire est le pays mis à l'honneur cette année. Mekpenaï Traoré, d'autres pays du continent, Madagascar, le Sénégal ou encore la RDC ont aussi ramené leur marmite à cet événement pour promouvoir la cuisine du continent.
Sur son stand orné du drapeau camerounais, la chef Jackie Mbanjo s'affaire à servir ses clients.
Là, je suis en train de défaire les bâtons de manioc appelés chez nous Bobolo. C'est mangé dans tout le Cameroun, plus dans le centre.
En plus du Bobolo, la chef se dit très fière de représenter son pays, surtout avec des plats traditionnels.
Aujourd'hui, précisément, j'ai du ndolé au poisson, du poisson frit et du poisson braisé. Il n'y a rien de plus beau que de représenter son pays avec les nez avec lesquels on a grandi. Ça prouve que je n'ai pas perdu mes racines.
À quelques mètres de là, la RDC propose également ses mets locaux, une façon de vendre autrement l'image du pays à travers sa gastronomie, en dehors des sujets d'actualité habituels, selon Julie Lagui, restauratrice.
Il faut qu'on continue de parler du Congo, parler autrement que des minerais, autrement que de la misère, autrement que de la guerre. Et c'était ça notre message lors de ce salon. Pourquoi les gens viennent sur le centre? C'est pour découvrir le fameux saka saka. Les gens veulent savoir comment est-ce qu'on le cuisine, avec quoi on le mange. C'est notre spécialité nationale, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, c'est délicieux.
De quoi attirer certains visiteurs du salon friand des cuisines africaines.
J'achète du dolé, c'est très bon.
Moi j'adore, hein. Pendant tous ces jours au salon ici, j'ai mangé 80% de la nourriture africaine.
Le Soudan et le Rwanda, quant à eux, proposent des produits comme le café, l'hibiscus, le baobab ou encore des épices.
Reportage de Kpenaï Traoré qui a d'ailleurs tendu son micro dans les allées du salon à des visiteurs qui, visiblement, apprécient beaucoup la nourriture proposée aux stands africains.
J'ai mangé des alocos, du poulet, les noix de cajou, j'ai vu des escargots, des poissons.
J'ai découvert pas mal de marques que j'ai vraiment appréciées, notamment le pavillon Côte d'Ivoire qui était mis à l'honneur, c'était vraiment très intéressant. Pas mal de produits, le chocolat, le cacao, voilà. Et sur le stand du Cameroun, on a découvert une spécialité apéritive à base de courge qui était très intéressante, c'était une très belle découverte.
Je vis tout ce qui est africain, c'était vraiment impeccable. J'ai goûté à Tchiki, puis à Plakali, tout est doux. Et j'ai aimé.
Moi, j'ai bien aimé l'ambiance et les nourritures, la nourriture. Par exemple, les beignets, les acras, tout ça.
J'ai goûté le poulet à la poudre d'acajou pimenté. Et puis j'ai acheté des acajou, des mangues séchées. Ça fait plus de 40 ans que je viens au salon de l'agriculture. Donc je vois qu'il y a pas mal de produits
qui viennent de l'Afrique.
Un propos recueilli par Penaï Traoré qui préparait le dossier de ce journal. Et puis juste un mot de basket pour refermer cette édition. La suite des éliminatoires du Mondial 2027, la RDC et la Côte d'Ivoire s'affrontent à 18h, temps universel, Madagascar et le Sénégal à 21h TU.
Et c'était le journal de Paul Longsens-Pinelli. Il est 7h44 à Paris, 6h44 en temps universel. Vous retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site RFI.fr ou bien sur nos applications. RFI, l'actualité ce matin marquée par ces explosions dans la capitale iranienne Téhéran. Israël dit avoir mené une frappe préventive contre l'Iran. On sera en direct de Téhéran dans un quart d'heure pour développer cette actualité. Un peu plus de 3 ans après la fin de la guerre du Tigré en Éthiopie, des milliers de personnes déplacées ne sont jamais retournées chez elles. Beaucoup doivent se contenter des conditions de vie déplorables du camp de Itzatz. Sur place, le manque de perspectives provoque des départs massifs vers la Libye ou le Yémen. Marlène Panara est allée à la rencontre de ces familles décimées dans ce camp situé à l'ouest du Tigré.
Les premiers abris apparaissent au bout d'une route poussiéreuse et cabossée. Dans ces petites maisons de tôle, entourées de montagnes, vivent aujourd'hui plus de 15 000 personnes originaires du Tigré occidental, une zone occupée depuis la guerre par les forces de la région Amhara. Depuis quelques mois, de nombreux jeunes déplacés quittent le camp pour s'engager sur les routes migratoires. Le frère d'Amleset, 18 ans, est aujourd'hui en Libye.
Il est parti sans rien nous dire. Ce sont des trafiquants d'êtres humains qui l'ont aidé à traverser la frontière du Soudan vers la Libye. Puis, après une longue période, des personnes de notre entourage nous ont dit qu'il était là-bas, mais qu'il avait été arrêté.
Quelques semaines plus tard, Amleset reçoit un appel de son frère. Les trafiquants exigent 1 million de birres de rançon. La famille paie alors une partie en vendant son bétail et les coûts cessent.
Mais aujourd'hui, mon frère est toujours en prison car il demande encore de l'argent. Et il est très malade. Je me sens mal parce que je ne peux pas aider mon frère qui est bloqué là-bas. Je n'ai pas d'argent à lui envoyer. Je me sens tellement impuissante et démunie.
À Itzatz, des milliers de familles partagent la même histoire. Parmi les raisons de cet exode massif, l'impossibilité de trouver un travail aux alentours. La fille de Birza est partie pour le Yémen il y a 2 mois.
Elle m'a dit qu'elle allait trouver un travail pour subvenir aux besoins de la famille. Moi, je lui ai dit que ce n'était pas la peine, qu'on demanderait aux gens, à l'église, de nous aider. Mais elle n'a rien voulu savoir et elle est partie. Et aujourd'hui, elle est en prison. Je ne peux la voir que par la petite caméra de surveillance de sa cellule. Il la force à me dire qu'elle souffre et il me demande de l'argent.
Pour Keshime Bratou, coordinateur du camp, les conditions de vie déplorables font aussi partie des causes de départ.
Dans ce camp, on fait face à de nombreux défis. Le plus important, c'est le manque de nourriture. Mais on manque aussi d'eau potable et l'accès aux soins médicaux est très rare. Ces 2 derniers mois, la situation s'est un peu améliorée grâce à des collectes de fonds organisées par des stars de TikTok. Mais j'ai peur que la situation se détériore encore, car c'était une aide ponctuelle. Or, nous avons besoin d'un soutien en continu.
D'après Keshime Bratou, depuis 2020, 335 personnes sont mortes de faim dans le camp. Marlène Panara, de retour de Itzatz, RFI.
RFI, 7h47 à Paris, 6h47 en temps universel. À la veille de sa fermeture, le salon de l'agriculture à Paris, ébranlé par la décision de l'Union européenne, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, va mettre en place provisoirement l'accord commercial de libre-échange avec le Mercosur, signé officiellement en janvier. Une trahison pour les agriculteurs français, parmi les plus hostiles à ce traité. Le secteur est déjà affaibli par les maladies comme la dermatose, le réchauffement climatique et se voit donc contraint de s'adapter, même de changer de modèle. Si certains se tournent par exemple vers l'intelligence artificielle, d'autres penchent pour l'agrivoltaïsme. Cette pratique combine sur le même terrain la production d'énergie renouvelable et de produits agricoles. Et ça devient de plus en plus courant, notamment en Australie. Reportage sur place de Grégory Pless.
De loin, cela ressemble à n'importe quelle centrale photovoltaïque. Sur une 50 hectares, plus de 30 000 panneaux solaires suivent du matin au soir la course du soleil. Mais en y regardant de plus près... Une centaine de moutons broutent et se reposent à l'ombre de ces panneaux. Pour leur éleveur, Tom Warren, le mariage de ces deux activités, c'est d'abord une nouvelle source de revenus. Les loyers versés par l'entreprise qui exploite la centrale solaire, qui ne dépend ni de la météo, ni des prix du marché. Mais très vite, il y a vu aussi d'autres bénéfices.
Quand il pleut, l'eau tombe sur les panneaux solaires, puis coule depuis leur extrémité, ce qui crée de longues bandes de très bonne herbe verte grâce à la concentration de l'eau le long de chacune des rangées de panneaux solaires.
Qui plus est, l'ombre apportée par les panneaux permet à cette herbe de rester verte plus longtemps et à la terre de conserver un certain niveau d'humidité, même en plein été. Résultat, pour Tom Warren, les affaires n'ont jamais été aussi bonnes.
La laine est plus propre et de meilleure qualité. Et dans l'ensemble, notre chiffre d'affaires issu des moutons qui pèsent sur la ferme solaire a augmenté de 15%.
Une association gagnante également pour l'entreprise française qui exploite la centrale solaire, Neoen, car les moutons, en broutant, réduisent considérablement ses frais d'entretien. À tel point d'ailleurs que des élevages de moutons sont désormais présents sur toutes les centrales solaires qu'exploite Neoen en Australie. Et c'est aussi ce que font la plupart de ses concurrents. C'est ce qu'affirme Emily Walker, directrice de Neoen pour la Nouvelle-Galles du Sud.
Tout le secteur bouge très vite sur ce sujet, car nous vivons dans un monde où il n'est plus possible de découpler la terre de son usage agricole historique et de la production d'énergie solaire.
D'ailleurs, l'agrivoltaïsme en Australie ne se limite plus à l'élevage. Des panneaux solaires ont ainsi été déployés sur des vignes dans différentes parties du pays, même si pour l'instant c'est à titre expérimental. Mais les agriculteurs ont beaucoup à y gagner, c'est ce qu'affirme un rapport du Clean Energy Council qui estime qu'entre les loyers perçus et les gains de productivité, ces derniers pourraient générer, grâce aux énergies renouvelables, 600 millions d'euros de revenus supplémentaires d'ici à 2030 et plus de 6 milliards à l'horizon 2050. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Le reportage international à réécouter sur notre site www.rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio.
RFI Matin.
Un peu de poésie à présent avec notre invité Afrique. Le slameur sénégalais Souleymane Diamanka joue en ce moment son spectacle à Paris, le One Poet Show, création au croisement de la poésie et de l'humour, de sa voix grave. Il nous éclaire de sa sagesse et nous conte l'origine du monde, son rapport à la culture hip-hop, à son père et à son village Peul. Souleymane Diamanka est au micro de Lisa Giroldini.
Les poètes se cachent pour écrire. Chacun purge sa pénombre.
Souleymane Diamanka, bonjour.
Bonjour.
Quel a été le point de départ de votre seul en scène, le One Poet Show?
En fait, je regardais beaucoup de spectacles de stand-up et de salles en scène. Et je me suis dit, après avoir beaucoup travaillé avec des musiciens, que ce serait pas mal d'essayer un format différent pour laisser plus de place aux mots et à la poésie et d'être plus proche du public. Du coup, j'ai fait ce format qui est One Poet Show pour le format. Et du coup, c'est devenu le nom du spectacle.
Dans votre spectacle, vous évoquez le hip-hop en fil rouge. Vous qui avez été membre d'un groupe avant de découvrir le slam, que vous a appris le hip-hop pour devenir le slameur, le poète que vous êtes aujourd'hui?
Le hip-hop au niveau du rap m'a appris énormément de techniques d'écriture. Les rappeurs sont très très techniques. C'est une poésie qui pioche dans le vécu, ce qu'on partage dans nos vies, et on est souvent le haut-parleur des personnes qui nous entourent en fait. Et c'est ça que j'ai puisé de plus fort dans le rap, et une certaine authenticité.
Le hip-hop est né comme une parole de résistance, en plus d'être une parole de création. Est-ce que cet esprit est toujours présent dans votre pratique aujourd'hui?
Oui, il y a un esprit de résistance dans le fait de trouver des raisons de sourire, trouver des raisons de partager, de voir les points communs entre des êtres humains qui peuvent être d'apparence différente. Se servir de nos différences comme de la complémentarité. Et ça encore, c'est l'état d'esprit hip-hop, quoi.
Vous parlez aussi beaucoup d'amour dans votre spectacle. Est-ce que pour vous, c'est un moteur qui est plutôt poétique, plutôt spirituel ou plutôt politique?
Je pense que c'est à la fois politique, poétique et spirituel. C'est un truc qui est tout mélangé. Mes parents se disaient pas artistes, mais dans leur manière d'aborder la vie, d'aborder l'éducation, il y avait énormément de poésie, de politique et de spiritualité. Et pour moi, la poésie orale, elle permet ça en fait. Vu que notre voix, c'est notre personnalité, elle nous permet d'être nous-mêmes en saupoudrant par-dessus notre personnalité tout ce que la poésie permet. C'est magnifique de pouvoir prendre la parole et d'avoir des gens qui nous écoutent. Il y a des pays où c'est interdit, je trouve ça juste merveilleux. Ce soir, c'était magique, parce que moi, mon spectacle, c'est de regarder les expressions de visage des gens qui sont dans le public. Et mes poèmes, je les connais tellement par cœur que mon esprit, il n'est pas là-dessus. Il est vraiment sur l'écoute des gens. Et les gens, ils sont super beaux quand ils écoutent.
Comment vous travaillez votre voix pour transmettre des émotions aussi intenses, aussi variées ?
J'ai pas vraiment de technique pour la voix. J'ai des techniques pour pas la perdre, pour la chauffer, tout ça. Sinon, et c'est un conseil que je donnais à un jeune poète qui m'a récité un poème après le spectacle, je lui disais, le conseil, c'est de parler avec ta voix de la conversation, parce que c'est elle qui contient toutes tes vraies émotions, en fait. Et dès que tu essaies de rajouter des choses par-dessus, on sent que tu joues, tandis que l'émotion et la sincérité, c'est ce qui voyage le plus vite d'un être humain à l'autre. Quand quelqu'un parle avec un sanglot dans la voix, même si on ne sait pas pourquoi la personne est émue, même si on ne la connaît pas, l'émotion nous traverse. Si quelqu'un nous parle avec un éclat de rire contenu dans la voix, même si on ne sait pas pourquoi cette personne a envie de rire, c'est communicatif. Et j'essaie de piocher là-dedans. Quand je dis un poème que j'ai écrit pour ma mère, je sais pas de faire du beau, j'essaie d'être sincère, et la sincérité, elle est souvent plus forte que la beauté, ou elle rejoint la beauté à un moment donné, vraiment.
Dans votre spectacle, vous parlez en français mais aussi en peul. Vous évoquez le fait d'être sénégalais en France, français au Sénégal. En quoi ça vous inspire d'être un trait d'union entre plusieurs pays ?
C'est parce que c'est une place à prendre. Souvent, un jeune d'origine sénégalaise qui a grandi en France, s'il cherche à être juste français, il va lui manquer quelque chose. S'il cherche à être juste sénégalais, il va lui manquer quelque chose. Tandis que cette place de trait d'union, on est les deux à la fois, et on est comme une passerelle. Et c'est une place super importante, en fait. Et mes parents, ils nous ont permis ça. Mon père et ma mère, dans leur éducation, ils nous disaient, faut que vous soyez 100% peul et 100% bordelais. On disait, mais papa, ça fait 200%. Ils disaient, mais voilà, c'est, ne choisissez pas, soyez tout en même temps. Et ça, ça m'a beaucoup aidé, quoi.
Souleymane Diamanka, merci beaucoup.
Merci à vous. Et pour finir, je dirais que le mot soit perle, que l'amour se parle, que la mort s'éloigne, que la lumière soigne. Merci beaucoup.
Le One Poet Show de Souleymane Diamanka à Paris jusqu'au 28 mars. Dans quelques minutes, sur RFI, on revient sur, dans le journal, sur ces fortes explosions à Téhéran. Israël a frappé ce matin la capitale iranienne. On est à Téhéran et à Jérusalem dans le prochain journal. Vous suivez également la situation sur place dans notre direct sur notre site internet www.rfi.fr. Méga fusion en vue à Hollywood. Paramount Skydance va racheter Warner Bros. Discovery. Le groupe Amaury de Rochegonde échappe donc à Netflix. Le géant du streaming avait refusé de s'aligner sur l'offre de Paramount.
Et c'est une grosse surprise, car il y a encore quelques semaines, le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery faisait savoir que l'offre de Netflix avait sa préférence et que s'il avait accepté de laisser un nouveau délai de 7 jours à Paramount, c'était pour tirer au clair ses intentions et en finir avec les pitreries, je cite, de son patron David Ellison. Et puis Paramount a amélioré son offre d'achat en bourse, passant de 30 à 31 dollars par action, ce qui porte de 108 à 110 milliards, ce qu'il se dit prêt à payer, dette incluse. Pour soutenir cette offre, le groupe a fait un temps appel au soutien de Jared Kushner, le gendre du président Trump, mais aussi à des fonds de la péninsule arabique. Surtout, c'est le soutien inconditionnel de Larry Ellison, fondateur d'Oracle, à son fils, avec l'assurance d'injecter 40 milliards de dollars dans l'opération, qui a crédibilisé cette offre.
Alors pourquoi Netflix a refusé de renchérir avec une contre-offre après cette dernière proposition de Paramount ?
Eh bien, le géant du streaming explique que pour lui, Warner est un nice to have et non pas un must have. Comprenez, un actif qui fait joli dans son catalogue, mais qui n'est absolument pas indispensable. En outre, Warner a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires de 5% l'an dernier et Netflix voit ses coûts, donc ses besoins de financement, croître plus rapidement que prévu, alors qu'il dépasse désormais les 131 millions d'abonnés. Son offre de 83 milliards de dollars ne portaient d'ailleurs que sur le studio et la plateforme HBO Max, mais pas sur les chaînes de télévision CNN et Discovery, et Paramount ne se privait pas de glisser que l'offre de Netflix pouvait être bloquée par les autorités de la concurrence.
Et l'offre de Paramount Skydance porte bien sur l'intégralité du groupe Warner Discovery, y compris CNN.
Oui, et c'est même un élément essentiel de ce dossier. On sait que Larry Ellison est un ami de Donald Trump et que son fils s'est empressé de reprendre en main CBS et CBS News dès qu'il a pris les rênes de Paramount. On peut être sûr que l'administration de Trump ne fera rien pour s'opposer à ce rachat de Warner qui devrait être acté en Assemblée Générale le 20 mars. La crainte est maintenant que CNN soit à cette occasion purgée de l'intérieur, mise au pas, et l'on comprend alors que l'intérêt politique de Trump complète la visée économique de Paramount. Paramount qui s'apprête donc à absorber une société à la valeur boursière 6 fois supérieure et qui va sans doute s'empresser de rapprocher, voire de fusionner ses studios avec ceux de Warner Bros., ainsi que son service de streaming Paramount Plus avec HBO Max.
Amaury de Roche-Gond, des résultats, l'action de Paramount a été propulsée de plus de 20% à la bourse de New York.
La propagande à l'écran.
Carrefour du Maghreb avec Julia Trangeval.
Comment le cinéma français raconte-t-il